La main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Vous nous parlez ce matin de Félicie Hervieux. Félicie ne connaît pas de gloire posthume.
Et oui, c'est injuste car l'on doit énormément à cette femme. Lorsque l'on pense jardins familiaux partagés aux ouvriers, eh bien on évoque toujours la figure de l'abbé Lemire, un homme d'église, également parlementeur, qui fonde en 1896 la Ligue française du coin de terre et du foyer. Pour résumer, l'abbé Lemire a inventé le jardin ouvrier.
Mais vous semblez maintenant en douter.
Eh bien oui, parce que notre homme, incontestablement, est sincère, engagé, honnête. Cela ne fait aucun doute à mes yeux. Mais si l'abbé Lemire a fait énormément pour le jardin ouvrier, il n'en est pas l'inventeur. Mmh. Une femme avant lui en avait déjà eu l'idée.
Et donc c'est cette Félicie Hervieux qui est née en 1840, près de Sedan dans les Ardennes.
Oui, elle est issue d'un milieu modeste, elle rêve d'être médecin, mais en ce temps-là, les femmes n'ont pas accès à ce métier. Alors elle sera, comme sa maman, sage-femme. Elle a 19 ans, elle épouse Honoré Désiré Hervieux, un touche-à-tout qui va créer une manufacture de textiles. Avec lui, elle aura 7 enfants.
Et elle s'investit beaucoup donc dans le travail de son mari et s'intéresse aux conditions de vie des ouvriers.
Oui, à peine est-elle donc au sein de cette entreprise qu'elle se préoccupe vraiment du sort de toutes ses petites mains. En 1891, elle publie des livrets où elle note ses propositions pour un monde meilleur. 2 ans plus tard, elle décrit son projet de jardin collectif pour les plus humbles dans un fascicule qu'elle adresse à de nombreux notables, dont l'abbé Lemire. Le 4 janvier 1895, le journal Le Temps publie à la une un article qui salue son travail et qui annonce officiellement la naissance du premier jardin ouvrier.
Et qu'est-ce qu'elle est devenue alors, Félicie Hervieux ?
Eh bien, après avoir perdu son mari en 1896 et vécu douloureusement sans doute la faillite de sa manufacture, elle quitte Sedan après avoir démissionné du comité des jardins qu'elle avait mis en place. Elle est décédée en 1917 à l'âge de 77 ans, bien dans un anonymat encore aujourd'hui regrettable.
Mélanie vous a écrit Alain Baraton. Mélanie voudrait savoir comment se débarrasser du criocère du lys.
J'adore cette bestiole, je vous l'explique en deux mots. C'est un des plus beaux insectes qui soit. Il est rouge, d'un rouge vif, presque 1 cm. Il a les pattes noires et il se délecte des feuilles et surtout des fleurs de lys. Alors vous allez vous dire, curieux qu'un jardinier aime cette bestiole. Oui, c'est vraiment un prédateur, il fait vraiment de dégâts. Mais imaginez, vous êtes dans le jardin, le lys est là, vous avez vu la veille que les feuilles avaient été un petit peu, j'allais dire, consommées. Alors vous allez vous occuper du problème, vous vous approchez et vous ne le voyez pas. Mais où diable est cette bestiole ? Eh bien quand cette bestiole, elle vous voit, elle se laisse tomber à terre et elle fait le mort, tout simplement le mort, elle ne bouge pas. Vous regardez la fleur, vous regardez les feuilles, mais non, c'est par terre qu'il faut regarder. Elle ne bouge pas, elle est là, elle n'est pas morte, mais voilà.
Donc elle est maligne, c'est
voilà,
ça que vous aimez.
Très maligne. Donc que faire ? Vous connaissez maintenant la suite, vous prenez une petite boîte, vous prenez des gants éventuellement, vous mettez délicatement la petite bestiole dans la boîte et vous allez la mettre ailleurs.
Si elle ne pique pas la petite
elle
bestiole.
Elle ne pique pas du tout. Bon. Allez la mettre dans un...
Comme d'habitude, par-dessus le mur. Hein.
Oui, surtout si votre voisin a des lys. Oui, surtout.
François voudrait connaître la méthode, si elle existe, pour se débarrasser des élantes qui envahissent sa propriété.
L'élante, c'est un très bel arbre. On l'appelle aussi le vernis du Japon. C'est un arbre qui est arrivé en France au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, le premier élante du Japon fut planté à une petite centaine de mètres de là où j'ai la chance d'habiter. C'est un très bel arbre, mais qui a une faculté à produire des rejets étonnants. On va faire très simple. Vous mettez un pied d'élante dans une cour pavée et vous laissez l'arbre croître. Et bien, au bout de 20 ou 30 ans, votre vie est devenue un cauchemar. Parce que l'arbre a une réserve souterraine absolument incroyable. La seule façon d'éviter les rejets de l'élante dans une cour, c'est de ne pas en planter. Eh bien sinon, à moins de mettre des produits toxiques et dangereux, eh bien, il faut couper et encore couper.
Le prunier de Joël a ses feuilles qui s'enroulent sur elles-mêmes. Elles sont rabougries, dit Joël. Il y a très peu de fruits. Pourriez-vous, Alain Baraton, nous conseiller pour l'année prochaine ?
Bien là encore, on appelle ça la cloque du prunier. On l'appelle également, mais c'est joli, la maladie des pochettes. Parce qu'effectivement, quand on regarde l'arbre, quand il est atteint, on a l'impression que ce ne sont plus des feuilles, mais quantité de pochettes. Là encore, humidité, chaleur, champignons. Il faut savoir qu'on a tendance dans les jardins à planter trop près. Je conçois quand on a quelques petites centaines de mètres carrés en ville qu'on a envie d'avoir un maximum de végétaux. Sauf que le vent ne peut pas assécher normalement la végétation, ce qui explique pourquoi on ne cesse de parler ici même à ce micro et bien de tous les champignons de la planète. Donc, que faire ? 1. Vous évacuez systématiquement les feuilles tombées au sol. 2. Vous taillez le cœur du végétal. 3. Une bonne fois pour toutes, cessez donc d'arroser exagérément le jardin. Et logiquement,
vous le dites tous les week-ends en ce moment, ça.
Comment ?
Vous le dites tous les week-ends en ce moment.
Oui, parce que
on arrose trop.
Oui, parce qu'il y a une mode du jardin vert. Il y a l'arrosage intégré que l'on voit se mettre en fonctionnement un petit peu partout. Et les plantes n'ont pas besoin d'eau plus que de raison. Hier, canicule terrible partout en France. En région parisienne, 40 degrés ou presque. Ce matin, il pluviote. Cette petite pluie suffit largement à arroser le jardin.
Marie-Christine voudrait vous parler de son cerisier avec une des branches maîtresses du cerisier, une branche qui est morte. Elle porte des champignons xylophages. Dois-je la couper après la récolte des fruits?
Oh, mais moi, je n'attendrai pas. Elle peut même la couper avant. Ça n'a aucune conséquence sur le végétal. Même la plante que l'on coupe cette branche ou non, ça ne dérange pas le cerisier. Il vit parfaitement avec cette branche morte. Pour des raisons d'esthétique, il est conseillé de la couper, bien évidemment, en rappelant qu'il ne faut jamais couper au ras d'un tronc. Quand vous avez un tronc, un fût, d'où s'échappe une branche, laissez toujours quelques centimètres pour qu'il puisse y avoir cicatrisation. Sinon, vous risquez de faire une plaie dans le tronc. Et là, c'est un autre problème.
Véronique, à propos des roses et des pivoines, envahies par des fourmis et des araignées, à côté, les rhododendrons sont envahis par de minuscules sauterelles. Comment repousser tout ce petit monde, demande Véronique.
C'est une vraie biodiversité dans le jardin de Véronique.
C'est merveilleux.
J'étais sûre qu'il allait dire ça.
Un jour, je vous parlerai de la sexualité des araignées. C'est extraordinaire. Je vous parlerai également de la sexualité de la punaise du jardin. Vous verrez que comment peut-on se débarrasser de ces petites bestioles comme ça sans tenir compte de ce qu'elles ont été capables d'inventer au fil des millénaires. La meilleure méthode pour se débarrasser des insectes est de faire venir les oiseaux. La meilleure façon d'avoir des oiseaux dans son jardin, c'est d'avoir des insectes. C'est le serpent qui se mord la queue. Il y a un équilibre. Est-ce qu'il est vraiment gênant d'avoir des araignées dans un jardin? Regardez ces toiles le matin. Mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, c'est l'excès, l'abus d'insectes qui est nuisible, pas leur présence.
Allez, un dernier conseil pour ce dimanche.
C'est bientôt les vacances. J'ai adoré mon cahier de jeu à la découverte des plantes sans jeu très nature pour percer leurs secrets. Bah, c'est pour les petits, vous vous en doutez. C'est un livre de dessins, de jeux réalisé par Roxane Bee. Elle est diplômée en communication visuelle et apparemment, elle connaît bien son job. Ça a été fait avec le réseau des conservatoires d'espaces naturels. C'est admirablement fait, très agréable et c'est publié Plume de carotte.
Alain Baraton, le jardinier de Versailles. Merci Alain et à samedi prochain.
À samedi.